la lettre de Jacques. Alors, je ne vais pas commencer par une introduction. Vous savez qu'en général, pour commencer, pour faire l'étude d'une lettre, d'une épître, on commence par étudier, par le moyen de toutes sortes d'éléments qui sont souvent étrangers à la Bible. On commence par étudier la date, le lieu de rédaction de la lettre, et puis alors l'auteur, l'authenticité, etc. Alors tout ça, je ne vais pas le faire. Je préfère tout de suite en venir à l'étude même du texte. Dans le fond, c'est ce que Dieu veut. Il nous donne là un texte inspiré, et puis vous savez que cette lettre a été écrite exactement en l'an 60, 63, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pas ça qui va nous édifier. Alors, je lis le premier verset de l'Épître. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Jacques, serviteur de Dieu. Bien sûr, la question se pose en commençant de savoir qui est ce Jacques, l'auteur, le rédacteur, disons, de cette épître. Il y en a trois dans les Écritures. Le premier est bien connu, c'est le fils, l'un des deux fils de Zébédée, le frère de Jean l'apôtre. Jean, lui, alors le rédacteur de l'Évangile, des trois épîtres et de l'Apocalypse. Donc, Jacques était le frère de Jean, fils de Zébédée. Un second Jacques est nommé dans les Écritures. Il est appelé Jacques, fils d'Alphée. Fils d'Alphée. Et il était apôtre. Il était apôtre, il est surnommé le mineur, le mineur. Et le troisième est Jacques, appelé frère du Seigneur, surnommé le juste. Alors, il nous faut donc, non pas choisir, mais essayer de discerner quel est celui des trois qui est le rédacteur de l'Épître. Alors, le premier, fils de Zébédée, fut décapité très tôt, sur l'ordre d'Hérode Agrippa, cela en l'an 44, 10 ans après l'Ascension. Et il ne saurait être l'auteur de l'Épître qui a été écrite manifestement plus tard. Donc, il s'élimine, et il nous reste Jacques, fils d'Alphée, et Jacques, frère de Jésus. Entre ces deux, comment attribuer l'Épître? Eh bien, je pense que c'est assez simple. Tout dans l'Épître suppose que son auteur disposait d'une grande autorité spirituelle. La seule autorité, d'ailleurs, qui devrait prévaloir. Toute autre autorité que celle-là est une autorité de l'homme, une autorité charnelle, évidemment. Alors, ce Jacques, l'auteur de l'Épître, oui, disposait donc d'une grande autorité, tant dans l'Église chrétienne que parmi les Juifs de la dispersion. Et il a exercé un ministère qui est reconnu, hautement reconnu. On a donc généralement retenu Jacques, le juste, le frère du Seigneur, comme auteur de l'Épître. Évidemment, vous trouverez dans certains écrits des avis peut-être non pas différent, n'aura pas tranché d'une manière différente, mais des discussions à ce sujet ne nous intéressent pas du tout. Moi, il me semble que c'est très clair que l'épître de Jacques soit dû au frère du Seigneur, le frère de Jude. Jude, l'auteur de l'épître de Jude. Pour cela, on peut par exemple simplement, on ne va pas lire beaucoup de textes, mais Galates, chapitre 1, verset 19. Chapitre 1, verset 19. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Jacques, le frère du Seigneur. Et c'est lui qu'on trouve aussi dans Actes chapitre 15, au moment où l'Église doit prendre une décision. Il prend la parole d'ailleurs et donne un avis de sagesse. Jacques fut l'un des frères anciens de l'Église de Jérusalem. Certains écrits le qualifient même de chef de l'Église de Jérusalem, je préfère éviter cela. Je dis un des frères anciens de l'Église de Jérusalem. Il a eu certainement une grande responsabilité, peut-être la responsabilité principale dans l'Église de Jérusalem. Et il mourut martyr en l'an 64 sous Néron. Donc son épître est écrite un petit peu avant l'an 64. Il laissa une forte réputation de sainteté et disposa d'une grande autorité, nous l'avons dit. L'apôtre Paul le désigne dans l'épître aux Galates au chapitre 2, verset 9, le désigne comme une colonne parmi les autres. Et cette lettre est adressée aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Ces 12 tribus étaient tout simplement des communautés juives n'ayant pas encore dans leur sein de membres païens, ou peut-être excessivement peu. Et elles étaient implantées parmi les populations juives du dehors, dans la dispersion par conséquent. C'étaient en somme des judéo-chrétiens. Jacques a pour but, en leur adressant cette lettre, de leur prêcher la patience, la fermeté, la prière et l'espérance. Il leur dira que la foi doit avoir ses œuvres. Et nous aurons à nous arrêter particulièrement par cet après-midi, mais ensuite nous arrêter particulièrement sur ce que Jacques va dire des œuvres, de la foi et des œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Et nous verrons comment le point de vue, ou l'exposé plutôt doctrinal que nous trouvons dans l'épître de Jacques s'accorde fort bien avec ce qu'enseigne d'autre part l'apôtre Paul. On a souvent voulu les opposer, et c'est bien à tort, parce qu'il y a un accord. Ce serait étrange que dans la Bible entièrement inspirée, il y ait d'ailleurs des désaccords de cet ordre, des accords de doctrine, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas l'ombre d'un désaccord seulement. Nous verrons pourquoi Jacques expose les choses différemment de Paul. Alors, la foi doit avoir ses œuvres comme l'arbre doit avoir ses fruits. Et ça, c'est un enseignement très largement répandu dans l'Écriture. Il fallait combattre un attachement dangereux au bien de la terre. Chaque épître, quel qu'en soit le rédacteur, est adressé à une église ou à des églises où ont surgi des problèmes. Et en somme, L'intérêt des épîtres, de manière générale, dans le Nouveau Testament, c'est cela. C'est que on se trouve en face de problèmes, de difficultés qui ont surgi et elles sont traitées par les auteurs, des auteurs inspirés, des épîtres. Et ici, l'apôtre Jacques avait devant lui ces problèmes-là, le danger d'un attachement au bien de la terre, celui d'une âpreté au gain, d'une propension aux discussions, il va en parler, aux prétentions illusoires aussi du formalisme. Et toutes ces choses, en somme, ont constitué au cours des siècles les grandes tentations qui ont assailli le monde de l'Église. Et l'Église, évidemment, l'Église, si on la prend dans le grand christianisme, n'a pas su résister à ces tentations et malheureusement elle y a cédé et c'est ce qui a amené, il faut bien le dire, dans les églises, les défigurations. Ce sont de véritables défigurations de l'Église corps de Christ, de celle que nous présente le Nouveau Testament, qui est et doit être le corps de Christ, et qui est l'épouse irrépréhensible de l'agneau. Nous allons maintenant lire du verset 2 au verset 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Nous allons voir ces trois versets. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Pierre aussi va nous dire cela dans sa première épître. Regardez des épreuves comme un sujet de joie. Évidemment, dans la vue de l'homme, c'est quelque chose de paradoxal. On ne regarde pas comme un sujet de joie quelque chose qui vous fait souffrir ou qui vous tourmente, qui vous jette dans le trouble ou l'anxiété, on ne regarde pas ça comme un sujet de joie. Mais ici, pourtant, c'est une recommandation formelle qui n'est pas seulement propre à Jacques, mais que l'on retrouve chez Pierre et ailleurs aussi. Regardez l'épreuve, les épreuves qui vont certainement venir dans votre expérience chrétienne comme un sujet de joie. Paradoxal, c'est vrai. Mais, chers amis, nous disons en passant que toute l'Écriture nous enseigne par le moyen du paradoxe. Forcément. Je ne vais pas développer cette idée-là, ce point-là maintenant, mais dans l'enseignement biblique est un enseignement qui utilise, je ne dis pas qu'il est paradoxal, mais il utilise le paradoxe. Et assez souvent, ce qui nous est dit est en effet paradoxal. N'est-il pas en effet paradoxal de voir un homme comme Abraham, partir, parce que Dieu le lui a demandé, partir pour 3 jours de marche vers une certaine montagne que Dieu va lui désigner, pour offrir son fils Isaac, le fils de la promesse, son unique, dira Dieu, alors qu'en réalité il est le second, son unique, celui qu'il aime. Celui qu'il aime, le fils qu'il aime, le fils de la promesse, le fils unique. Alors, va et offre-moi ce fils en holocauste. Et Abraham, donc, s'en va. Et il fait un parcours de 3 jours. Il a un serviteur, il y a un âne, il y a le bois, on a emporté le feu, il y a aussi le couteau pour l'Holocauste. Et pendant ce temps, ce père peut être convaincu et rester convaincu que ce que Dieu lui demande, qui est une chose horrible, qui est un, disons-le, un crime, n'est-ce pas? Un crime. Dieu n'a jamais demandé de sacrifice humain. Alors, il est persuadé, elle doit l'être sous son véritable jour, comme une source d'affermissement de la foi, comme l'occasion d'une victoire qui va être remportée. Une victoire qui va être remportée. Je ne voudrais pas trop m'étendre sur la notion d'épreuve. Vous savez que, mais il faut quand même dire quelque chose. Les épreuves sont très variées. On ne peut pas dire exactement quelle sera l'épreuve que nous allons rencontrer prochainement, peut-être. Nous ne savons pas. Elles sont variées. Elles sont très variées, les épreuves. Mais l'utilité de l'épreuve est quelque chose qui doit être évident à notre cœur. Pensez que nous avons la responsabilité de l'exercice de la foi. Nous en avons la responsabilité. Nous avons la foi intérieurement. C'est un sens spirituel que nous pouvons exercer. Ce sens, d'abord, d'ailleurs, est un sens de l'esprit. Notre frère, en d'autres termes, ce matin, y a fait allusion à cela, ce problème. C'est un sens de l'esprit et non pas un sens de la chair, ni même un sens de l'âme. Je pense à cette constitution qu'on appelle quelquefois trialistique, trinitaire, si vous voulez, la constitution trinitaire de l'homme, esprit, âme et corps. Et la foi, l'exercice de la foi, est un privilège de l'esprit qui est réveillé par l'écoute de la parole de Dieu. Mais cette foi, elle est jeune, elle n'a pas travaillé. Quand nous venons au Seigneur Jésus, elle n'a rien fait, elle n'est pas aguerrie. Et la moindre chose peut la détourner de son objet, peut même en quelque sorte l'étouffer, l'éteindre. Et cette foi, il faut nécessairement qu'elle trouve à s'exercer pour pouvoir s'affermir peu à peu, d'où les épreuves. Ça, c'est absolument nécessaire, absolument indispensable. Et lorsqu'on étudie la vie du Seigneur Jésus-Christ, on s'aperçoit que, non seulement lors de la tentation par Satan, après son baptême, mais dans tout le cours de son ministère terrestre, il a supporté des épreuves, et cela était nécessaire, il les a surmontées. Il le dit lui-même à ses apôtres, ses compagnons, vous avez surmonté avec moi diverses épreuves, il a surmonté des épreuves, il en a donc rencontré lui-même. Abraham, lui, a en quelque sorte eu, si l'on fait un décompte sans forcer de ce que nous apprend à son sujet la Genèse, on pourra dire qu'il a eu 7 épreuves. Et il a triomphé dans 4 épreuves et et il n'a pas bien supporté les trois autres. C'est à peu près cela. Il a supporté très bien, par exemple, l'épreuve avec Lot, son neveu, qu'il n'y ait pas entre deux frères. Il le voit comme un frère avant de le voir comme un neveu, qu'il n'y ait pas de discorde entre nous. Alors, choisis toi-même. C'était à lui de choisir, l'oncle. Et puis non seulement ça, mais c'était lui qui avait été appelé par Dieu, c'est pas Lot. Lot n'a pas été appelé. Lot a voulu suivre lui-même. Alors, là, il a magnifiquement triomphé. Mais, quand il est parti en Égypte, et que là, il a fait passer sa femme pour sa sœur, de façon à préserver sa petite santé, et sa petite existence, il est évident que il en est sorti l'oreille basse, puisque le pharaon a été obligé de le réprimander vertement. Donc, les épreuves, c'est quelque chose de constant dans l'expérience de tous ceux qui sont les amis que Dieu conduit à la gloire éternelle. La vraie joie, donc, a besoin de la foi, d'une foi solide et hardie, et c'est d'une telle foi que va dépendre le salut. L'Écriture nous le dit, je ne vais pas rappeler ça, que nous obtiendrons le salut pour prix de notre foi. Nous entrerons dans le royaume pour prix de notre foi. Dans l'épreuve, lorsqu'elle est supportée avec foi, alors, cette foi va trouver le moyen de s'affermir, de s'aguerrir, elle va combattre, elle va lutter, elle va devenir par conséquent vraiment quelque chose de réel, de pratique, parce que elle est d'essence spirituelle, mais comme tout ce qui est spirituel, aujourd'hui, dans notre temps, tout cela doit servir sur le plan de la vie réelle, de la vie pratique. Et le fruit de l'épreuve, nous dit Jacques, sera la patience. La patience a elle-même une œuvre à accomplir. Elle travaillera à établir et à étendre la vie chrétienne sanctifiée. La vie chrétienne sanctifiée, cette vie chrétienne sanctifiée, c'est ça, l'état de perfection. L'état de perfection, c'est cela. Perfection, le terme dans nos traductions françaises, il n'en est pas toujours ainsi dans toutes les traductions étrangères, mais dans la traduction française, le terme perfection a deux sens. Le mot grec, il y a deux mots grecs d'ailleurs. Deux sens. Il y a la perfection qui est l'état de maturité. Comme par exemple, on dira que tel insecte, ça se dit en entomologie ça, tel insecte est arrivé à la perfection, il est parfait, un insecte parfait, on dira un insecte parfait, un insecte qui a atteint son plein développement et sa maturité. Alors il y a ce sens dans la Bible, c'est la stature parfaite de Christ. Et puis, il y a l'autre sens, qui est d'atteindre la perfection de Dieu. Alors, la perfection de Dieu, ça, c'est quelque chose de différent, oui. C'est la perfection absolue, c'est l'absolu, c'est le summum, c'est l'état dans lequel on ne peut pas envisager quelque chose qui soit supérieur. C'est le summum. Ce qu'il y a, d'ailleurs, la perfection de Dieu est unique. Elle est unique. C'est l'état de perfection dans lequel nous serons lorsque nous aurons quitté cette terre. Nous serons introduits dans cet état. Mais la Bible nous demande de viser à cet état de perfection, cet état d'absolu. C'est l'absolu de Dieu. Il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas de vie éternelle possible sans que l'on soit amené à cet état de perfection, à l'absolu de Dieu. Ce n'est pas possible. La vie éternelle requiert l'état de perfection. Et la Bible nous demande de viser à cela. Même si nous ne l'atteignons pas maintenant, de viser, par exemple, cette parole du Seigneur Jésus, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors là, c'est vraiment l'absolu de Dieu. « Comme votre Père céleste est parfait. » C'est l'absolu de Dieu. Mais, alors, il faut viser à cela. C'est en quelque sorte l'étoile. L'étoile, comme celle des mages, que les mages, ils n'ont jamais attrapé l'étoile. Eh bien, nous n'attraperons pas sur cette terre la perfection absolue de Dieu, mais nous devons viser à cela. Et nous devons nous dire ceci, c'est que l'Écriture ne peut jamais situer le but à atteindre en deçà de la perfection. C'est pas possible. Dieu peut pas nous demander de réaliser quelque chose qui soit intermédiaire, qui soit un palier plus élevé pour arriver jusqu'à lui. Non, il nous demande sa sainteté. Il nous demande la perfection. C'est à quoi, donc, il faut que nos cœurs visent. Dieu ne peut pas, il ne peut pas, c'est impossible que Dieu nous demande de réaliser quelque chose qui soit entre deux, entre les deux, entre l'état actuel et l'état de perfection. Mais cette perfection que nous avons à viser, c'est essentiellement la stature parfaite de Christ, Éphésiens 4. À l'homme, il est impossible d'atteindre la perfection, mais la source en est dans le travail d'une foi qui surmonte l'épreuve avec sérénité, avec patience. Nous arrivons au verset 5, que nous allons lire de 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Si quelqu'un manque de sagesse, ce qui veut dire, si quelqu'un ne parvient pas à régler sa vie selon la vérité enseignée, selon la volonté de Dieu, s'il trébuche constamment, ou s'il se trouve toujours en défaut dans sa conduite, alors il y a là un manque de sagesse. Mais quelle est au juste cette notion de sagesse que Jacques introduit ici? Eh bien, cette sagesse n'est pas une connaissance théorique. La théorie, ça, Dieu n'en veut pas, n'aime pas ça. Parce que toute parole est donnée pour être vécue. Le Seigneur a suffisamment mis l'accent sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu nous est donnée pour être vécue. Si elle n'est pas vécue, eh bien, elle est qu'on en fasse un sujet de discussion ou de spéculation intellectuelle, par exemple. La parole cesse d'être la parole de Dieu. On s'est emparé d'elle, on l'a dénaturée, elle cesse d'être la parole de Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'une connaissance théorique. La sagesse va apparaître dans le fruit de la vie chrétienne, dans le fruit de la vie nouvelle, de la vie de résurrection. C'est là. Si le fruit est porté, il y a de la sagesse, il y aura de l'amour aussi, bien sûr, mais il y aura de la sagesse. Et la sagesse est par conséquent quelque chose qui ne se verra que dans le défaut, les défauts de la vie chrétienne. C'est pourquoi différents passages, je n'en citerai qu'un seul, vont nous exhorter à nous conduire, vont parler de notre conduite, c'est-à-dire de notre comportement. Est-ce que nous vivons l'Évangile? Vivons-nous les principes de l'Évangile? Enfin, il arrive assez souvent que nous-mêmes, c'est ce qui cause nos alarmes passagères, il arrive que nous ayons constaté que nous n'avons pas su vivre l'Évangile. Ça arrive à tout le monde, hein. Je pense que personne ici ne pourra dire le contraire. Hein. On s'est trouvé dans une circonstance déterminée devant quelqu'un, et puis alors on a été pris de court, mais ça arrive souvent qu'on le soit, et alors quelque chose nous a été dit ou quelque chose était à faire, nous avions une réponse à donner à l'événement. Un événement est devant nous, il fallait que nous nous manifestions dans cet événement, et puis nous l'avons fait d'une certaine manière, puis alors après nous réfléchissons, oh, c'est pas ça que j'aurais dû faire, c'est pas comme ça que l'Évangile, oh, qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, n'est-ce pas? Nous le voyons inférieur, là nous constatons que nous n'avons pas su vivre l'Évangile. Alors, bien sûr, on va s'en humilier, naturellement, on va s'en humilier. Mais le Seigneur Jésus est là, pour nous le pardonner d'abord, et puis ensuite pour nous amener à une autre fois pouvoir précisément triompher dans une circonstance analogue ou de même niveau. Eh bien, c'est ça. Le manque de sagesse, c'est la répétition de cela, en quelque sorte. Lorsqu'il y a répétition de cette capacité à vivre les principes de l'Évangile, alors là, il y a un défaut de sagesse. Ah, alors, il va falloir la demander à Dieu, comme dit l'apôtre Jacques, il y a un défaut de sagesse. Il ne faut pas craindre, s'alarmer, comme on nous l'a enseigné ce matin, bien sûr, mais il faudra quand même s'en inquiéter et demander au Seigneur de nous donner la sagesse. Conduisez-vous avec sagesse. Alors je voulais vous citer un passage, je le prends dans Colossiens chapitre 4, mais il y en a 7 ou 8 autres. Colossiens chapitre 4 et verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Comment il faut répondre? Et c'est là, chers amis, que souvent réside la difficulté. Et ça aussi, c'est une épreuve. Ce sont des épreuves. Comment répondre à quelqu'un? Je cite quelquefois une petite anecdote. Je l'ai cité pas mal de fois, mais enfin, peu importe, une fois de plus. Un jour, à Villeneuve-sur-Lot, deux sœurs âgées qui étaient très actives dans le service du Seigneur, visitaient beaucoup de monde, viennent me trouver, et puis j'exerçais à ce moment-là le pastorat à l'église de Villeneuve, et alors elles viennent me trouver et me disent, vous savez, nous avons rencontré une femme, nous avons vu déjà plusieurs fois. Elle est catéchiste dans l'Église catholique. C'est-à-dire, elle a été formée pour amener des gens à la foi, mais vous savez, elles sont, entre parenthèses, sont bien formées, ces catéchistes. Et il y en a en France des quantités. Enfin, je ne sais pas quel est le résultat que ça donne, mais il y en a beaucoup. Bon, alors elle est catéchiste. Elle est donc bien instruite des choses de la foi. Et quand nous commençons, elle nous reçoit très bien, mais quand nous commençons à parler tout de suite, alors là, c'est la doctrine catholique qui revient à la surface, et puis nous ne pouvons plus placer un mot. Alors, nous lui avons demandé si elle voulait recevoir un pasteur. Elle a consenti. Alors, frère, si vous voulez venir avec nous, bon. Alors, je dis, c'est bien, on va prier le Seigneur avant, et j'y vais. Alors, je suis allé avec elle, je l'ai accompagné. Nous sommes trouvés devant une femme, en effet, assez imposante, qui avait un port et un regard assez assuré. Et alors, elle nous fait asseoir, et je commence à lire un passage de Jean, l'évangile de Jean. Et puis, alors, cela fait, elle prend tout de suite la parole, et elle dit, mais nous... nous avons trois noms. Nous avons Dieu, le Père, Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph. C'est l'antienne catholique, ça. C'est pas Jésus, Marie, Joseph. Alors, je me dis, bien sûr, ça, c'est l'amorce, c'est pas si nous donnons dans ce panneau, nous n'avons pas fini, nous allons entrer dans des discussions, dans des polémiques, le danger est là. Alors, je dis au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, dis-moi ce qu'il faut répondre. Et, bien sûr, quand c'est urgent, le Seigneur répond très vite. Alors, je réponds à cette dame, nous aussi, elle avait dit, nous avons trois noms, je dis, nous aussi, nous avons trois noms. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, comme c'était la réponse du Seigneur, pas la mienne, n'est-ce pas, ça a déconcerté cette femme. Je l'ai vue. Elle a été déconcertée. Alors elle a dit, ah, Joseph n'est pas un Dieu. J'ai ajouté, Marie non plus, madame. Et puis, il n'a plus été question de cela. Nous avons parlé de la parole de Dieu, de l'Évangile. Ça a été fini, n'est-ce pas? Vous voyez, par conséquent, comme il faut, en effet, comme le dit Paul dans les Colossiens, pour avoir vraiment la sagesse de savoir comment il faut répondre. C'est très important, cela. Alors, il y a bien d'autres passages dans les Philippiens, les Thessaloniciens 1 et 2, Timothée, Pierre, etc. Dieu donnera cette sagesse, il donnera la force spirituelle d'une vie conforme à l'Évangile. C'est Dieu qui va nous faire progresser dans la mise en pratique de l'Évangile, dans le savoir-vivre en somme. Le savoir-vivre l'Évangile, c'est Dieu qui va nous faire progresser. Et Dieu, dit là Jacques, donnera cette sagesse par amour. Il ne va pas la donner avec des reproches, avec des blâmes, non pas du tout, pour nous décourager. Il va la donner selon la richesse, la libéralité de sa grâce, sans nous rebuter. Et le Seigneur, lui, sait éviter de nous rebuter. Dieu aime donner ce qu'on lui demande selon son plan d'amour. Ça, c'est encore une idée générale, voyez-vous. Dieu aime donner. Et Dieu n'aime pas donner ce qu'on ne lui demande pas. Parce que si on ne lui demande pas, c'est qu'on n'en sent pas le besoin, hein. Et alors, ça, Dieu ne veut pas nous donner quelque chose d'excellent, de très bon, tout ce qui vient de lui est tellement bon, nous le donner alors que nous n'en avons pas le désir. Il faut d'abord que nous en ayons le désir. Mais quand nous avons le désir de ce qui est, bien sûr, selon son dessein, alors Dieu prend plaisir à nous le donner, d'où l'invitation pressante du Seigneur Jésus, demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, on donne à celui qui demande, on ouvre à celui qui frappe, n'est-ce pas une invitation pressante de Jésus, mais demandez le Saint-Esprit à votre Père Céleste qui vous le donnera, vous donnez bien vous un œuf à votre fils, s'il vous en demande un, vous lui donnez pas un scorpion à la place, alors le Seigneur vous donnera de bonnes choses si vous les lui demandez. La demande doit être faite à Dieu sans hésitation, sans mouvement intérieur de crainte ou de recul, d'appréhension de ne pas être exaucé. Faut faire attention à ça, sans douter, dit Jacques, sans douter. Mais le doute a souvent cette forme, c'est l'appréhension de ne pas être exaucé. Et vous avez dû aussi éprouver cela. Parce que nous sommes tous, en somme, dissemblables, mais pareils tout de même. Et vous avez dû éprouver cela. Il y a quelque chose dont nous sentons le besoin, c'est bien dans la volonté de Dieu. Alors nous prions et nous demandons au Seigneur de nous le donner. Bien. Alors là, quand nous demandons, quand nous prions, ça va bien. Nous sentons vraiment partis là, nous sentons plein de force, d'un saint désir d'obtenir. Voilà, la prière est faite. Puis une minute ou deux se passent et tout à coup dans le cœur se vient une idée qu'on ne voudrait pas, mais es-tu sûr que Dieu va te la donner et crois-tu que vraiment ta prière va être exaucée, etc. Voyez-vous, n'est-ce pas, ce doute qui vient toujours. Alors ce doute, c'est difficile de vraiment s'en défendre, c'est-à-dire d'arriver à ne plus avoir du tout de doute. Mais quand il vient, il faut tout simplement le combattre. Et Dieu ne nous dira rien. Si nous le combattons, il ne nous reprochera pas d'avoir eu cette pensée de doute et qui sans doute est introduite par l'un de ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Nous arrivons au verset 9, je vais encore lire jusqu'au verset 12 inclus. « Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alors nous avons dans les versets 9 à 11 une opposition entre deux personnes, deux types, si vous voulez, deux personnes chrétiennes, je suppose chrétiennes. Le premier, c'est le frère de condition humble, c'est-à-dire, mettons, de pauvre. Il faut entendre ici de pauvre, par opposition à riche. Et puis, le deuxième, c'est le riche. Et les conseils, ici apportés par Jacques, sont à l'inverse de la position de ces deux types de frères, le pauvre et le riche. Le pauvre, lui, va se glorifier de son élévation, il devient chrétien, une autre personne, il sent que véritablement il quitte cette condition lamentable qui était la sienne, car sa pauvreté n'était pas seulement le fait d'un dénuement des choses nécessaires à la vie. Mais dans l'Écriture, il y a toujours, pour le mot pauvreté ou l'idée de pauvreté, il y a toujours un double sens. La pauvreté en esprit, comme nous l'avons dans le début des Béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ah, les pauvres en esprit, les humbles en esprit, et puis alors la pauvreté matérielle, la pauvreté, le dénuement. Alors là, ce frère sera heureux de se trouver enrichi de son élévation. Il ne va pas quand même, lui, être enclin à s'enorgueillir de ça. Alors il pourra jouir tranquillement du fait que Dieu est en train de l'élever. N'oublions pas que Dieu veut nous élever. Enfin, Dieu nous demande de nous abaisser, nous, mais lui, il nous élève. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et Dieu, ça c'est encore un autre thème, Dieu veut nous élever comme il a élevé son Christ. Et quant au riche, lui, eh bien le riche, il faut qu'il prenne garde et qu'il se glorifie de son humiliation. Lui, il faut qu'il recherche absolument l'humiliation. La grâce de Dieu peut opérer différemment selon les personnes. Elle peut opérer différemment selon les personnes. Je vous en donnerai une idée avec le chapitre 4 des Éphésiens. Chapitre 4, verset 7 d'abord. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et au verset 16 du même chapitre, c'est de lui, c'est-à-dire de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps de Christ, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, donc à chacun de ses membres, n'est-ce pas ? Donc l'accroissement, la grâce d'accroissement et des conditions et des possibilités d'accroissement va être donnée par la grâce de Dieu, mais différemment à l'un par rapport à l'autre. À l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que Dieu s'est ajusté sa grâce aux besoins qu'il nous connaît, qu'il sait, qu'il connaît en nous. Vous savez que nos besoins, Dieu les connaît. L'Épître aux Romains nous le dit, avant que vous ayez pu les dire, il faut les dire quand même, mais l'Esprit les connaît. Eh bien, Dieu ajuste sa grâce. C'est merveilleux de savoir ça, que Dieu s'est ajusté sa grâce à ma condition, à la condition de mon âme, à mon état d'âme, à mes difficultés, peut-être aussi à mes velléités. J'ai des velléités, certaines velléités qu'il faut réprimer, combattre. Eh bien, la grâce de Dieu va me permettre tout ça. Elle va être ajustée à ma situation. Ça, voilà ce que nous pouvons penser de ce que nous dit ici l'apôtre Jacques. Et ensuite, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Dans le grec, tentation et épreuve sont exprimées par le même mot. Le même mot, donc, ça arrive souvent qu'en grec, il y ait un mot qui ait deux sens. Assez souvent, le grec est plus riche que la langue française. Il arrive, par exemple, dans le domaine de la guérison. Il y a davantage de mots dans le grec qu'il n'y en a dans le français. Et puis, le contraire se produit aussi. Par exemple, il y a le mot grec « basileia » qui est traduit par « royaume », mais qui signifie également « le règne ». Et ici, le mot grec signifie « tentation et épreuve », les deux choses ensemble. Alors, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, on pourrait très bien traduire l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, d'ailleurs, je pense que notre rédacteur, notre traducteur a mis tentation pour ne pas répéter deux fois le mot épreuve, n'est-ce pas? Il aurait mis heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il a préféré traduire par tentation. Mais d'autres ne l'ont pas fait. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. L'épreuve est l'occasion d'employer la foi, nous l'avons dit, pour, devant une difficulté, choisir la bonne issue, choisir vraiment celle qui va nous permettre d'être en accord avec la volonté de Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus, par exemple, je disais que le Seigneur Jésus a eu des épreuves, mais je pense à une petite circonstance qui pour lui n'était pas bien importante. Lorsqu'ils entrèrent avec lui et Pierre, entrèrent à Capernaum, il fallait donner une pièce de monnaie, n'est-ce pas? Voyez-vous? Un stataire, je crois, hein? Une pièce de monnaie. Le Seigneur n'avait pas d'argent, n'avait pas de monnaie sur lui, Pierre n'en avait pas non plus. Et alors, le Seigneur pose la question, mais est-ce que les fils, il pose la question à Pierre, les fils, nous sommes tout de même des fils, d'autant plus que le Seigneur habitait Capernaum, ne sont pas exempts de du paiement de ce tribut. Alors, Pierre dit oui, ils en sont exempts. Bon, alors le Seigneur aurait pu dire à Pierre, bon ben alors rentrons sans payer, n'allons pas payer. Oui, mais l'ennemi se serait servi de la circonstance. Alors, je ne sais pas trop comment, mais enfin on peut l'imaginer, comment ceux qui percevaient auraient pu très bien faire des réflexions que tout le monde aurait entendues. Ben, oui, on prêche toutes sortes de bonnes choses et puis on ne les met pas en pratique, par exemple. Alors, pour porter témoignage, un bon témoignage, il y avait le souci d'un bon témoignage, alors il va dire à Pierre, eh bien, nous allons payer, mais comment? Eh bien, on va faire appel au miracle. Et tu vas aller au lac, tu vas jeter l'hameçon, et tu vas prendre le premier poisson qui va venir, tu vas l'ouvrir la bouche, et tu prendras ce fameux stataire, tu le donneras pour toi et pour moi. Voyez-vous? Alors, nous sommes là, dans une épreuve, devant une difficulté, et qu'il faut absolument que nous portions un bon témoignage, que nous fassions quelque chose qui va répondre à la volonté de Dieu, ben, si nous n'en avons pas les moyens, nous le demandons à Dieu qui ne manquera pas de les donner. Bon, eh bien, je pense que nous allons pouvoir arrêter notre étude maintenant, et Dieu voulant, nous la reprendrons demain à cet endroit.
Première question posée. Quelle différence y a-t-il entre la résignation et l'abandon?
Si la résignation, ce sera le fait, n'est-ce pas, un petit peu de quelqu'un qui baisse les bras, qui abandonne. Bon, bah, mais même, vous savez, quelquefois, des chrétiens qui vous le disent, bah, j'ai demandé au Seigneur, j'ai prié, j'ai fait ça, puis le Seigneur ne m'a pas répondu, puis voilà, ils abandonnent le combat. Voilà de la résignation qui est une très mauvaise attitude. Et alors, si au contraire, nous abandonnons à Dieu, nous n'allons pas interrompre le désir, la recherche de la chose bonne dont nous avons besoin. Voyez-vous, ce ne sera pas dans l'interruption. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer comme Moïse, n'est-ce pas, dans le combat de Josué contre Amalek, on continuait à lever les bras, n'est-ce pas? Le Seigneur va peut-être un peu tardé à nous répondre. Et là, il a des raisons qui peuvent se comprendre, d'ailleurs. Hein. Mais vous voyez, quand on se met dans la dépendance de Dieu, on ne se met pas d'une façon molle, si vous voulez. Hein. On ne s'abandonne pas, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui n'a plus de réaction. On s'abandonne tout en conservant les réactions de la foi.
Deuxième question, comment se comporter dans les épreuves ?
Pas mal d'années. Ça fait peut-être 30 ans, quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Bon, d'être placé un jour devant une grave, plus qu'une difficulté, n'est-ce pas ? Vraiment un événement douloureux et très grave. Nous avions un fils, et à ce moment-là, il avait 4 ans, hein ? 4 ans ? Quoi ? Oui, enfin, il y a un petit peu plus de 30 ans. Et alors, tout à coup, le voilà qui contracte la polio, poliomyélite. Bon. Mais un garçon, un petit superbe, magnifique. Bon. Et le voilà atteint de la poliomyélite. C'est un mal brutal. Le docteur vient aussitôt que nous voyons un petit quelque chose, on l'appelle le médecin pour qu'il voit, alors tout de suite lui-même agit, il fait venir un spécialiste et puis on intervient tout de suite, n'est-ce pas ? Bon, comme on pouvait le faire à ce moment-là. Et alors, voici que malgré tout, la polio fait des dégâts. Et l'enfant était... La progression avait été arrêtée, mais la polio avait eu le temps de faire des dégâts. Et il était comme un pantin disloqué. Il tenait même plus assis. Vous savez, un beau petit comme ça, de 4 ans, je veux voir dans cet état-là. Hein, c'est quelque chose. Ça, c'est une épreuve. Hein, une épreuve. Bon. Alors, cette épreuve-là, il est évident que une pensée est venue, nous voyons bien de la part de qui, n'est-ce pas ? Ben enfin, pourquoi Dieu te frappe-t-il ? Tu le sers, tu n'as pas été infidèle à son égard, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi, etc. Et alors, bien sûr, on s'est placé devant Dieu, et moi, même j'avais beaucoup d'occasions de prier tout seul, et j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, quelle que soit cette épreuve, qui est évidemment infiniment douloureuse et lourde, quelle que soit cette épreuve, quelles que soient les suites de cette épreuve, Seigneur, je te fais confiance. Et quoi qu'il arrive, je reste maintenant et après dans la pleine confiance, dans l'amour, Seigneur. Je choisis ce moment pour te parler de l'amour. Pour dire que je t'aime, pour dire que je confesse ta fidélité, tu montes jusqu'aux cieux, enfin, toutes ces assurances, n'est-ce pas ? J'en ai fait l'objet de ma prière devant le Seigneur. Hein ? Le Seigneur, tout de suite, n'a pas pleinement répondu, réagi, enfin... On a fait confiance en Dieu. Maintenant, l'enfant a grandi, il a 35 ans. Il a 35 ans, il a une très belle situation, il est marié avec une chrétienne qui aussi a une belle situation, ils ont 3 beaux enfants, ils sont très heureux, ils sont chrétiens. Enfin, voilà le résultat de la confiance faite en Dieu. Parce que au moment où l'enfant était malade, nous l'avons conduit par autre chose à l'hôpital des enfants de Bordeaux, et nous avons vu mourir des enfants qui n'étaient pas plus atteints que lui, hein, et de tout sens, on ne nous donnait pas grand-chose à espérer. On nous disait, vous savez, ce sera un infirme. Et il a des séquelles encore, il a une scoliose de la colonne vertébrale, il n'a pas subi son développement plein et entier, mais il conduit sa voiture, il exerce sa profession, tout va très bien, il est béni. voyez. Alors, donc, dans l'épreuve, ce qui a été nécessaire, c'est qu'au moment où on est mordu par la douleur, eh bien, c'est là qu'il faut confesser vraiment Dieu et l'amour de Dieu. Et là, c'est là. C'est facile de le faire quand tout va bien. Faire comme notre frère a dit l'autre jour, l'amour de Dieu. Oui, mais quand tout va bien, c'est parfait. Hein? Adieu, nous t'aimons. Mais quand tout va mal, n'est-ce pas qu'on est bien mordu aux prises avec la douleur, alors là, confessez Dieu. Et ça, c'est une chose dont Dieu, je peux dire, je ne dis pas qu'il nous a récompensés, mais ça nous a procurer, réserver par la suite toutes les bénédictions de Dieu. Nous avons eu une autre épreuve aussi, presque aussi dure. Alors la même chose, dans cette autre épreuve, la même chose, hein, et Dieu nous a par la suite comblés. Mais quelquefois, les épreuves que Dieu permet, et c'était des épreuves que Dieu permettait, elles sont quelquefois raides au début où on les aborde, hein, quelquefois raides. L'autre épreuve, ça a été une enfant de 6 ans et demi que le Seigneur nous a brusquement repris. Une enfant de 6 ans et demi, une fillette magnifique, elle aussi, de constitution joyeuse, heureuse, 6 ans et demi, elle connaissait le Seigneur, elle parlait du Seigneur, elle faisait la prière, elle a même prophétisé. Elle avait une foi extraordinaire, cet enfant. Et nous avions eu, je sais pas, sans doute guidés par le Saint-Esprit, nous l'avions appelé de deux noms qui ne pouvaient qu'être chers au Seigneur Jésus, hein, Marie-Marthe, les deux noms de ces deux sœurs de Lazare, hein, Marie-Marthe. Et c'était une enfant extraordinaire. Nous avions pour ami le professeur André Lamorte, et qui était théologien, il était docteur en théologie et docteur ès-lettres de l'hébreu, professeur d'hébreu, et il la connaissait bien, cet enfant. Quand il a su sa mort, il nous a envoyé une très belle lettre dans laquelle il a dit, écoutez, je vous dis le fond de ma pensée, cet enfant avait trop de foi pour que le Seigneur la conserve. Et alors, là, la même chose. Nous avons dit au Seigneur, Seigneur, c'est à toi que nous faisons confiance. Pleine confiance. Non pas à cause de la panique où la douleur nous met, mais parce que tu es Dieu, parce que nous voulons que notre foi se confirme, s'affirme, maintenant, dans cette circonstance particulièrement, tu es un grand Dieu, nous avons confiance, pleine confiance en ton amour, en ta bonté. Et alors, dans les jours même où il a fallu inhumer cet enfant, il y a eu des prophéties, il y a eu une vision, la vision d'une sœur en plein culte, une vision magnifique d'une sœur que le Seigneur a donnée, et puis à moi, le Seigneur m'a dit, avec la Bible, et ça a été confirmé aussi, je t'ai pris cet enfant, mais il faut que tu saches une chose, c'est que tu ne peux pas annoncer la vie sans connaître la mort et sans avoir éprouvé la mort dans ta propre chair. Voilà ce que le Seigneur m'a dit, en se servant de la circonstance où Ézéchiel, à lui, au prophète Ézéchiel, Dieu reprend celle qui faisait la joie de ses yeux, sa femme mourut le soir, et le Seigneur lui parle aussi et lui dit que c'est intentionnellement qu'il lui a pris cette femme pour le témoignage qu'il a à rendre. Et moi, le Seigneur m'a dit cela. Mais alors, la vision nous a montré que l'enfant était acceptée et introduite dans la gloire. Hein? Alors, vous savez, il y a quelquefois des épreuves trapues. Hein? Il y en a que des plus douces, peut-être, mais il y en a des trapues. Hein? Il y en a des trapues. Mais il ne faut pas perdre pied. Il faut continuer à confesser vraiment les vertus du Seigneur et l'amour que l'on a pour lui.